Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'Église peut-elle en finir avec les abus sexuels? Au moins 1000 enfants victimes d'abus sexuels commis par plus de 300 prêtres depuis les années 50 en Pennsylvanie, des prêtres couverts par leur hiérarchie. C'est ce que révélait il y a une quinzaine de jours le procureur général de cet État américain en rendant publique une enquête menée par ses services. Nouveau scandale de pédophilie dans l'Église catholique après l'Australie, après le Chili, après l'Irlande. Quelques jours plus tard, le Vatican publiait une lettre du pape François adressée au peuple de Dieu. Lettre dans laquelle le souverain pontife évoque sa douleur face à celle des victimes, renouvelle ses demandes de pardon et en appelle à une prise de conscience collective de la communauté des croyants en leur demandant notamment de dire non à toute forme de cléricalisme. Le cléricalisme, autrement dit, la confiance excessive placée dans l'autorité des hommes d'église qui favorise les abus de pouvoir et entretient le silence sur ces abus. Dire non au cléricalisme reviendrait donc à mener une sorte de révolution culturelle. Mais n'est-ce pas également de réformes structurelles dont le catholicisme a besoin pour lutter efficacement contre ces violences? Alors, l'Église peut-elle en finir avec les abus sexuels? C'est la question du jour en compagnie de trois invités. Véronique Margron, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes théologienne, sœur dominicaine. Vous présidez la conférence des religieuses et religieuses de France, la COREF, qui organisait notamment en juin dernier, c'était à Paris, une journée de sensibilisation sur le thème abus sexuels et pédophilie. Pour discuter avec vous, Vincent Némon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général adjoint et porte-parole adjoint de la conférence des évêques de France, la conférence qui regroupe l'ensemble des cardinaux et des évêques. Et puis notre troisième invité, Christine Pedotti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et écrivain, vous êtes la directrice de Témoignages chrétiens que vous avez relancé, c'était l'an dernier, qui prend la forme d'une lettre hebdomadaire, je crois, et puis d'une publication mensuelle, c'est bien ça?
Trimestrielle.
Trimestrielle, oui, c'est un petit peu plus, un petit peu plus éloigné comme périodicité. Alors, je voudrais d'abord avoir votre réaction aux uns et aux autres, peut-être sur l'ampleur, en fait, des révélations de ces dernières semaines, donc au Chili, en Australie, aux États-Unis, flot de révélations sur des violences sexuelles, notamment pédophiles, parce que pas exclusivement pédophiles. Est-ce que vous avez été surpris, les uns et les autres, par l'ampleur de ces révélations, Véronique Margron?
Moi, j'ai été, comment dire ça, tragiquement surprise. C'est-à-dire que je pense que je ne sais pas si quelqu'un peut s'attendre à un tel cataclysme. On peut le craindre, on peut penser que, en effet, le cléricalisme et bien d'autres choses, toute l'omerta sur toutes ces questions participe à ce qu'il y a encore de nombreux cas cachés, de nombreuses situations cachées. Mais de là à de telles révélations, à de tels chiffres, en quelque sorte à un tel système quand même, en tout cas pour ce qu'on voit en Pennsylvanie, ce qu'on semble voir en Australie, ce qu'on a vu hier ou avant-hier en Irlande. Enfin, là, moi, je trouve que mon premier sentiment, c'est l'effroi, quoi. C'est l'effroi pour les victimes, c'est l'effroi pour leurs proches, et c'est l'effroi devant le fait que tant de tragédies, que tant de crimes ont pu être commis pendant tant d'années sans que rien ne se passe. Donc, je sais pas, moi, si on peut imaginer que ça puisse avoir lieu à ce point.
Alors, ce mot de système, il est important peut-être pour qualifier ce qui se passe, enfin en tout cas ce qui est révélé aujourd'hui. Est-ce que vous l'utiliseriez de la même manière, Christine Pedotti? Est-ce qu'on est face à un système?
Ben, on est en tous les cas à quelque chose qui est systémique. Alors, ça veut dire que c'est lié à ce qui existe. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a espéré qu'au fond, il y avait c'est une sorte de théorie de la brebis galeuse. C'est-à-dire, il y a évidemment une sorte de fatalité statistique qui fait qu'il y aurait des pédophiles parmi les prêtres et puis qu'on n'aurait pas su bien réagir. Des pédophiles parmi les prêtres comme il y en aurait parmi les maîtres nageurs ou...
Voilà, comme dans toutes les institutions, voilà, où il y a des adultes et des enfants.
Et puis, c'est vrai que, d'une certaine façon, ça n'en finit pas de sortir. C'est-à-dire que, voilà, cette émission, on aurait aussi pu la faire il y a 3 ans et puis hélas, peut-être qu'on pourrait la refaire, parce que ça ne cesse pas de sortir. Alors c'est intéressant que ça sorte, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se libère, et ça existe. Mais du coup, ça dévoile aussi quelque chose qui est au cœur du fonctionnement du catholicisme, qui ne peut que troubler les gens qui, comme moi, sont de confession catholique, en se disant, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette machinerie qui va si mal que ça peut se produire et qu'on n'arrive pas à nettoyer et à éradiquer quand même.
Vincent Némon.
Oui, je pourrais répondre à votre question. Je ne suis pas sûr que ce soit au cœur du fonctionnement du catholicisme. Ce que je pense, c'est qu'il faut distinguer quand même Boston et Pittsburgh que d'autres cas. C'est-à-dire que peut-être que là, nous sommes devant des systèmes. Peut-être que là, nous sommes devant des systèmes structurés qui ont permis que pendant 70 ans, au moins 1000 enfants, hein, on pense qu'il y en a beaucoup plus, ont été victimes tragiques de ça. Donc, de fait, moi, je partage ce que vous dites, c'est-à-dire un énorme effroi. Et en même temps, nous sommes dans la période où tout cela sort parce que il y a sans doute une prise de conscience mondiale, et le pape n'y est pas pour rien, de l'importance d'enfin libérer cette parole, que des victimes que nous rencontrons, que vous avez rencontrées les unes et les autres, je pense, qui nous disent, voilà, pendant 10, 20, 30 ans, on ne parle pas parce que on est dans un déni même personnel quelquefois. Et là, tout ce qui se passe fait sortir cette parole. Donc, je dirais paradoxalement, j'ai presque envie de dire tant mieux que tout ça sorte, parce que ça permet aussi de s'attaquer à la question. Quoi.
Mais en l'occurrence, Vincent Némon, ce que l'on apprend de ce qui s'est passé depuis les années 50, alors notamment dans cet État américain de la Pennsylvanie, ça semble davantage lié au travail qui a été fait par la justice américaine plutôt que par une incitation à libérer la parole qui viendrait de la hiérarchie catholique.
Oui, mais je pense, vous savez, la hiérarchie catholique, elle n'est pas pour grand-chose dans la libération de la parole. Je veux dire qu'elle l'accompagne, elle l'appelle de ses voeux, mais sans doute que c'est un travail. Enfin, cette parole, elle se libère parce que l'une va se libérer, va provoquer la libération de l'autre, que les médias vont s'y mettre, que aussi une certaine partie des acteurs de l'Église vont la permettre. C'est tout un système, voyez. C'est pas uniquement, je pense, la hiérarchie qui décide que la parole se libère. Ça marchera jamais.
Est-ce que vous seriez aussi catégorique, Véronique Margron et Christine Pedotti, pour dire que la hiérarchie catholique donc accompagne en tout cas la libération de cette parole? En tout cas, peut-être qu'aujourd'hui elle l'accompagne. Ça n'a sans doute pas été toujours le cas, puisque ce sont des faits anciens dont on ne prend connaissance qu'aujourd'hui.
Ça, bien malheureusement, il n'est que trop sûr que ça n'a pas été le cas hier. Donc si aujourd'hui, au moins une partie, parce que je n'ose espérer que ce soit toute la hiérarchie catholique sur la planète qui accompagne cette libération, ce serait déjà un vrai pas. Je ne suis pas sûr qu'on en soit là dans toutes les églises du monde, enfin dans toutes les églises catholiques, dans tous les diocèses, sur tous les continents où l'église catholique se tient.
Qu'est-ce qui vous fait en douter ?
Parce que je pense que, ce qu'on voit, comment dire, le surgissement de la parole, par exemple, ce qu'on a vu au Chili. Hein, c'est-à-dire où malgré la prise de parole des victimes, dans un premier temps, le pape est sans aucun doute de très bonne volonté, enfin vraiment de très bonne foi, a contesté ce que disaient les victimes sur l'importance de la compromission d'évêques. Bon, et combien dans un deuxième temps, il a bien dû, bien tristement, mais en même temps heureusement qu'il l'a fait, hein, et c'est tout à son honneur en quelque sorte, reconnaître l'ampleur du drame et l'ampleur du crime commis et de cette omerta, montre combien cette parole quand même, comment dire, on peut pas dire qu'il y a eu pour le moment une décision suivie des faits profondes de l'ensemble des épiscopats pour dire, bon, voilà, maintenant on se met au service de la justice où qu'on soit dans le monde. Enfin, en tout cas, des justices démocratiques, déjà, ça serait pas si mal. Et on fait tout pour aider les communautés, pour aider les personnes, pour libérer cette parole. Je pense que, malheureusement, on n'en est pas là. Peut-être aussi parce que c'est des démarches compliquées, parce que la sexualité dans l'Église, on ne le sait que trop, dans le catholicisme, fait quand même partie a longtemps fait partie, et le fait sans doute encore partie, au moins pour une part, des tabous. Donc l'advenue de la parole sur ce sujet est loin d'être une évidence. Il l'est déjà pas sur les questions économiques, il l'est encore moins sur les questions de sexualité et donc d'abus sexuels et même d'abus de pouvoir, parce que ça remet en cause des choses profondes de notre Église sur le rapport au sacré, sur le rapport au pouvoir du prêtre ou du supérieur religieux d'ailleurs. Donc tout ça joue dans cette difficulté que cette décision soit réellement suivie des faits.
Est-ce qu'on peut encore d'ailleurs parler aujourd'hui d'omerta, Christine Pedotti? Et d'ailleurs, si oui, peut-être pas seulement du côté des prêtres, mais aussi peut-être du côté des laïcs.
Je pense qu'il y a des choses qui sont... On est plus dans l'impensé, dans quelque chose qui n'arrive pas à se penser. C'est-à-dire que c'est très compliqué, parce qu'en plus, quand on y regarde de près, on s'aperçoit que souvent, les abuseurs ont été des prêtres très aimés par leur communauté. Ce sont des prêtres qui ont été très séduisants. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile pour les gens de se rendre compte que ceux à qui ils avaient donné leur confiance, à qui ils avaient confié leurs enfants, se révèlent être des criminels. Donc en fait, c'est l'omerta, c'est certes, il y a un côté d'une institution qui se protège, ça c'est une première chose. Il y a une institution qui ne sait pas parler de la sexualité, parce que ça, moi, je suis vraiment d'accord avec Véronique sur le fait qu'il y a un problème dans l'Église catholique pour parler sainement et sereinement de la sexualité. On n'a pas de mots, il y a un déficit idéologique sur la question, donc c'est très très grave, on ne sait pas parler de ça. Et au fond, il y a cette idée que le prêtre, c'est quelqu'un pour qui on a de la révérence du sacré. Donc tout ça se mêle, et puis il faut ajouter une chose, moi c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup, c'est que ce ne sont pas des péchés, ce sont des crimes. Et dans l'Église, on n'arrive pas à bien penser la distinction entre le crime et le péché. Les péchés sexuels, ce sont, je veux dire, si je trompe mon mari, du point de vue de l'Église, et même du point, mon point de vue à moi, c'est un péché. Mais c'est pas un crime.
Oui, il y a un droit canonique d'ailleurs. Quel est le statut justement de ces abus sexuels dans le droit canonique? Est-ce qu'ils ont un statut particulier et avec une réponse particulière à leur apporter?
Non, en fait, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, ils ne sont pas identifiés comme tels. Ils ont d'ailleurs eu des drôles de statuts au long de l'histoire dans le droit canonique, puisque, par exemple, ils ont appartenu à un moment au péché qui était lié au crime autour de la confession. Donc, c'est-à-dire des choses qu'on pouvait dire ou pas dire, etc., ou secret. Donc, en fait, c'est une chose qui est très difficile à saisir pour le droit canonique, qui ne saisit pas le crime en tant que tel, c'est-à-dire l'atteinte à l'intégrité d'une personne, d'une violence, d'un abus, d'un viol, ce que la justice civile, depuis pas très longtemps, sait faire.
Oui, il faut le préciser aussi, hein, bien sûr. Je vous voyais un peu hocher la tête, Vincent Némon.
Non, j'écoute avec grand intérêt ce que vous dites. Je pense que la question du silence dans l'Église, c'est une vraie question. Bien sûr que je pense qu'il n'y a pas d'omerta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de silence organisé aujourd'hui. Mais moi, ce qui me paraît très important, c'est d'abord une démarche d'humilité. C'est-à-dire que, et je crois que le rôle des responsables dans l'Église, c'est cette démarche d'humilité. Et c'est pas un élément de langage. C'est-à-dire que il faut d'abord reconnaître que on a été mauvais dans le passé, mais même dans le passé récent. Il faut reconnaître aussi que les mentalités, c'est ce que vous disiez, sœur Véronique, elles évoluent, mais elles n'évoluent pas forcément du jour au lendemain, et que nous avons aujourd'hui des personnes qui sont héritières aussi d'une église d'hier, quoi. Donc il y a une évolution à provoquer. Et qu'il faut être assez ferme et assez presque quelquefois brutal en interne, dans l'église, pour reposer les règles, redire l'importance de la parole. Et je vais vous dire, moi...
Mais la brutalité, ça peut aller jusqu'où? Est-ce que ça peut être exiger, par exemple, la démission de tout prêtre, par exemple, de tout adulte, qui serait alors reconnu coupable. Alors s'il est reconnu coupable, c'est que la justice est passée, mais même s'il y a des faits quand même dont par exemple la hiérarchie catholique est au courant et que il s'avère que telle personne s'est livrée à des abus sexuels, donc oui. L'exclure de la communauté. Est-ce que ça doit aller jusque là? Est-ce que ça doit être la réponse si ce n'est systématique, mais enfin, en tout cas la plus usuelle?
Oui, aujourd'hui c'est la réponse justement du droit canonique qui, s'il ne qualifie pas les faits, en tout cas pose des sanctions. Et que aujourd'hui les personnes convaincues d'abus dans l'Église et notamment d'abus sexuels font l'objet de procès canoniques qui aboutissent dans la plupart des cas à l'exclusion, au renvoi de l'état clérical. Mais vous savez, il faut aussi regarder cette forme de sanction dans l'Église avec pas avec les yeux que l'on peut l'avoir dans l'entreprise ou dans la société civile. La démission d'un prêtre ou même d'un évêque ou d'un cardinal n'est pas forcément pour lui une sanction. Ça peut être une sanction pour le reste du monde, mais c'est pas forcément vécu comme une sanction. Ça peut être aussi une manière de se libérer. Et je dirais même que pour des auteurs qui ont été convaincus, qui ont été condamnés par la justice civile, quelquefois le renvoi de l'état clérical n'est pas la solution parce qu'on les remet dans la nature. Donc, vous voyez, faut manier avec un petit peu de délicatesse cette notion de sanction et de renvoi de l'état clérical.
Alors, soit sanction, soit peut-être compter aussi sur la démarche individuelle pour que les gens qui sont soupçonnés ou reconnus coupables de ce genre d'agissement, enfin, de leur propre initiative peut-être démissionnent. C'est ce qui s'est passé, en tout cas, c'était au printemps dernier au Chili, avec 32 évêques, les 32 évêques hein, chiliens qui remettent leur démission au pape. Pas tous parce qu'ils étaient coupables, bien sûr, de tels agissements, mais c'était voilà une démarche très collective suite à la gestion assez catastrophique hein, de ce sujet. Écoutez ce reportage assez court de France 24 à ce sujet.
Il avait annoncé des changements pour rétablir la justice au sein de l'Église chilienne. Le pape François a tenu sa promesse. Il a accepté ce lundi la démission de 3 évêques chiliens, soupçonnés d'avoir caché les actes pédophiles du père Fernando Caradima, reconnu coupable en 2011 d'agression sexuelle contre 2 jeunes garçons. Cristian Caro Cordera, Gonzalo Duarte de Cortázar et le très controversé Juan Barros font partie des 34 évêques invités au Vatican en mai dernier. Tous avaient remis leur démission au pape après plusieurs jours de discussion.
Nous voulons demander pardon pour la douleur causée aux victimes, au pape, au peuple de Dieu et à notre pays pour les graves erreurs et omissions que nous avons commises.
Seuls 3 d'entre eux sont aujourd'hui autorisés à démissionner en raison de leur âge plus avancé, selon les explications du Vatican.
Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative collective, Véronique Margron ? Est-ce que vous la soutenez ? Est-ce que ça vous semble effectivement quelque chose qu'il faut peut-être encourager ? Parce qu'il y aurait nécessité aussi peut-être de renouveler aussi un petit peu l'appareil, disons, politique.
En tout cas, ce qui doit être soutenu ou encouragé, c'est la réalité de la prise de conscience et du coup de la part de responsabilité portée par des responsables. Que ce soit des responsables religieux, des responsables ecclésiastiques, type évêque. Ça oui. Alors après, à travers quels actes, c'est pas à moi d'en juger, puis ça dépend des contextes. Mais je pense que là, le contexte de la crise est d'une telle ampleur au Chili et du scandale que, à vrai dire, je vois pas bien ce qu'ils auraient pu faire. Ça me paraissait la voie la plus, au moins la plus honnête, à défaut de dire plus que ça, au minimum.
Alors après, il y a d'autres appels, vous savez, alors pour qui appellent à la démission. Alors un pour le cardinal Barbarin, un autre à l'adresse du pape directement.
Mais, non. Vous savez, encore faut-il après que ça soit suivi des faits. C'est-à-dire que une chose est que des évêques présentent leur démission au souverain pontife. Autre chose est que des décisions soient prises pour tenter de rendre l'Église plus sûre. Donc on peut bien faire démissionner comme ça tous les épiscopats du monde, ou en tout cas un grand nombre, si c'est pour rester dans le même type de culture, de fonctionnement, de cléricalisme, pour reprendre le propos du pape François. Malheureusement, c'est pas sûr qu'on ait gagné quelque chose.
Vous êtes d'accord avec ça, Vincent Némon,
oui,
et Christine Pedotti?
Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être pragmatique. Nous sommes devant un fléau absolument atroce, donc il faut lutter contre ce fléau. Alors certes, il y a un fort symbole à la démission de responsables qui reconnaissent qu'ils n'ont pas assumé leur part de responsabilité, et on peut pas nier la force du symbole, mais il faut mettre en face de ce symbole l'efficacité aussi que peuvent avoir ces mêmes personnes dans la lutte contre ce fléau. Et je pense que ça explique aussi peut-être que voilà, certains ne démissionnent pas. Ça peut expliquer aussi que voilà, il faut se méfier un peu des symboles. Et je crois qu'il faut être pragmatique. Je peux vous dire, pour le voir quotidiennement travailler les évêques de France, que il y a vraiment une préoccupation et un vrai travail. Ce n'est pas simplement une volonté, c'est pas un affichage. Il y a un vrai travail qui prend du temps, qui prend des moyens, qui est perfectible. On est tout à fait les premiers à le dire, et j'ai commencé mes propos en disant qu'il fallait être humble. Il n'empêche qu'il y a une vraie préoccupation, je crois, aujourd'hui, dans la tête de tous les responsables de l'Église en France.
Moi, je voudrais être sûr que la préoccupation, c'est que ça s'arrête et que ça se soit nettoyé, et pas que la préoccupation, c'est que le processus s'arrête et pas que les dénonciations s'arrêtent. Moi, j'ai quand même, je me promène beaucoup en France, je fais des conférences, des gens, y compris des prêtres, me racontent des histoires dans lesquelles les évêques, qui sont les épiscopes, épiscopos, c'est celui qui surveille, qui a à l'œil sûr. C'est ça leur boulot. C'est vraiment profondément leur boulot. Moi, je veux bien qu'il y ait des évêques, mais qu'ils fassent leur job. Leur job, vraiment celui qui appartient à leur boulot, et qu'ils aient l'œil dessus. Et sur les prêtres, et on me raconte des choses qui, moi, me glacent, qui sont des choses qui sont vraiment mal gérées, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'ose pas, parce que, ben oh oui, mais alors en fait, finalement, ils n'étaient pas si jeunes que ça, d'ailleurs, c'était des majeurs, donc on dit rien. Enfin, moi, on m'a raconté des histoires qui me montrent que on est quand même très très loin, pour l'instant, d'être capable de prendre à bras-le-corps ce genre de questions. Et je le redis, à mon avis, pour cette double raison qu'il y a un problème sur l'intelligence de ce que c'est que la sexualité. Et puis, il y a un problème de cléricalisme, c'est-à-dire que les évêques, ils ont plus tendance à protéger leurs prêtres. D'ailleurs, très souvent, ils vont vous dire qu'ils sont les pères de leurs prêtres. Alors, c'est compliqué, hein, quand on a un prêtre dans son diocèse qui se trouve être un criminel et qu'on est le père évêque. Donc tout ça se joue de façon très compliquée. Moi, pour l'instant, je suis pas du tout rassurée.
Christine Pelletti, excusez-moi, mais ouais. Je pense pas qu'on puisse vous laisser dire ça. Je suis le témoin quotidien du courage de beaucoup d'évêques qui prennent des mesures à l'encontre de prêtres sur le simple témoignage qu'ils reçoivent de personnes, et qui sont des mesures d'abord conservatoires, puis un signalement au procureur. Et de fait, c'est difficile. Et vous avez raison, parce que la relation entre un évêque et ses prêtres est une relation quasi filiale. Et donc, c'est difficile pour eux, mais je peux vous garantir, alors c'est ma parole.
Est-ce que c'est une obligation, par exemple, pour les évêques que de le faire?
C'est une obligation d'obliger d'abord le prêtre à se dénoncer, et s'il ne le fait pas, d'opérer le signalement. Et ça commence d'abord par l'invitation aux personnes victimes de porter plainte. Le protocole est très clairement très fixé. Précis. De fait, il est difficile, mais je peux vous dire aujourd'hui que malheureusement, il y a encore beaucoup de cas et beaucoup d'évêques qui font ce job-là et qui le font avec beaucoup de courage. Et donc, je ne peux pas laisser dire qu'aujourd'hui, les choses ne se font pas dans l'Église de France. Ça, c'est faux.
Est-ce que cette obligation, elle pourrait aller peut-être encore un petit peu plus loin? Il y a la commission d'enquête australienne sur la pédophilie dans les institutions qui a rendu son rapport. C'était en décembre 2017. Alors, c'est dans les institutions en général. Oui. Elle a fait un certain nombre de préconisations. Mmh. Et pour l'Église, notamment, obligation pour les prêtres de dénoncer les actes pédophiles qui leur sont avoués dans le secret du confessionnal. Est-ce que ça pourrait faire l'objet justement d'une forme de réforme structurelle, Véronique Margron, c'est-à-dire que ce que l'on dit dans le secret du confessionnal puisse être pris en charge ensuite derrière dans le cadre de ces
révélations? Non, ça c'est pas possible, vu ce qu'est le sacrement de confession, ça n'est pas possible. Par contre, faut essayer de pas
se figer. C'est sans doute un vrai obstacle quand même.
C'est peut-être un vrai obstacle, mais faut pas le majorer non plus, parce que beaucoup de confidences sont entendues tout à fait en dehors de ce secret qui reste très très ritualisé, extrêmement précis. Donc je pense que faut pas focaliser là-dessus comme si tout ce qu'entendait un prêtre, il l'entendait en confession. Il l'entend d'abord dans les relations qu'il a avec les uns et les autres, dans les familles, dans les paroisses. C'est d'abord là qu'il les entend. Et cela, personne ne l'empêche de pouvoir avoir la même, de devoir avoir exactement la même responsabilité que n'importe quel autre adulte qui entendrait ces mêmes révélations, c'est-à-dire de les signaler. Mais on n'est pas, je pense qu'il faut pas mêler le secret de la confession à cela, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est une sorte d'impensée, c'est-à-dire on est un peu dans un fantasme de croire que là les prêtres auraient des sortes de révélations abominables, mais que tant qu'on n'a pas brisé ce secret, rien ne serait possible. Non, je ne crois pas.
Alors, je vous rappelle le thème de notre discussion ce soir. L'Église peut-elle en finir avec les abus sexuels? Nous sommes encore en votre compagnie, Véronique Margron. Vous êtes théologienne dominicaine, en compagnie de Vincent Némon, qui est le secrétaire général adjoint et directeur de la communication, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, je crois, tout à l'heure, de la Conférence des évêques de France, et Christine Pelletti, qui dirige la rédaction de Témoignages chrétiens. Et je voudrais qu'on en vienne, donc, même si vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, à cette question du cléricalisme directement abordée donc dans la lettre du pape à l'ensemble des croyants, au peuple de Dieu, et qui dit ceci: le cléricalisme favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd'hui. Dire non aux abus, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Alors, comment déjà est-ce que vous définiriez ce qu'est le cléricalisme, et est-ce que c'est la bonne façon, peut-être justement, de réformer véritablement, profondément, en tout cas, de lutter contre ces abus sexuels?
Alors, deux choses. D'abord, un petit rappel historique, c'est-à-dire qu'en fait, l'Église catholique est l'héritière d'une longue histoire dans laquelle il y a des réformes successives, dans laquelle elle essaie d'échapper à un certain nombre de crises. Donc il y a des papes qui font des réformes, une grande réforme grégorienne qui va à la fois essayer d'épurer le clergé, le rendre plus pur dans sa forme. Donc on lutte contre le nicolaïsme, la simonie, c'est-à-dire la corruption par l'argent et la corruption par le nicolaïsme, c'est-à-dire avoir des enfants et donc faire hériter ses enfants, etc. Donc on essaie d'épurer le clergé et on confie au clergé l'essentiel des responsabilités dans l'Église. Ce qui, a priori, était une bonne réponse à une grande crise de corruption dans l'Église. Hein, la réforme de Grégoire VII, c'est à la fin du XIe siècle. Et puis, ce système va perdurer et donc est concentré dans les mains de ceux qui sont des clercs et qui sont réputés être plus libres parce qu'eux, ils sont pas liés aux questions d'argent, ils sont pas liés aux questions de famille, etc. On leur confie, en fait, l'Église. Le problème, ce que le pape dit, c'est qu'on entre dans un entre-soi. Et cette séparation du clerc, du reste des gens, du laïc, hein, le laïos, le vulgaire, fait ce système de clérical que dénonce le pape, dans lequel il y a des mis à part, qui sont les prêtres, et qui vont de plus en plus être, en quelque sorte, les hommes du sacré, et puis le vulgaire qui écoute Belle, puisque c'est des moutons, hein, des brebis, et je veux dire, ne dit rien.
Donc si ce sont les hommes du sacré, ça veut dire qu'on doit leur obéir.
Eh bien, on doit leur obéir, et donc il y a en fait quelque chose. En plus, ils font une chose formidable, qui a un caractère sacré dans le catholicisme, c'est-à-dire qu'il touche le corps du Christ dans l'Eucharistie. Ça sacralise davantage encore. Donc en fait, on voit bien par exemple dans le 19e siècle une forme de très sacrale du corps du prêtre. Je pense que moi aujourd'hui, il me semble que ça rencontre quelque chose qui appartient à notre culture contemporaine, qui est la sanctuarisation du corps des plus faibles, des enfants et des femmes. Et donc en particulier des enfants, dans nos sociétés, la chose la plus sacrée, c'est l'enfant. Donc, en fait, on voit bien comment un cléricalisme qui fait un corps sacré avec le corps des prêtres se heurte à nos critères culturels aujourd'hui, dans lesquels il y a un corps sacré qui est le corps des enfants. Mais c'est pas irréparable. L'Église, elle n'est pas nécessairement ça.
D'autant, Véronique Margron et Vincent Némon, hein, je vous pose la même question. Enfin, en tout cas, je vous fais peut-être la suite de cette réflexion. C'est que ce corps des prêtres, c'est un corps, évidemment, masculin. Donc ça ajoute aussi sans doute à ces problèmes que rencontre l'Église aujourd'hui, Véronique Margron.
Ça ajoute à ces problèmes parce que ça renforce l'entre-soi. Si vous voulez, on voit bien que la question de comment lutter, combattre le cléricalisme, il passe par un maximum de pluralité. Plus il y aura de la pluralité, plus il y aura de l'altérité, plus peut-être on se protégera du cléricalisme. Donc à partir d'où vous avez un corps considéré comme sacré, qui en plus est uniquement un corps masculin, qui est en plus uniquement un corps célibataire, plus vous renforcez l'entre-soi. Donc la question, elle n'est pas d'abord de débattre est-ce qu'il faut que les femmes soient ordonnées prêtres. C'est pas d'abord le sujet. Le sujet, c'est comment on réforme en quelque sorte la communauté chrétienne, enfin la communauté catholique, afin que la circulation des responsabilités, la circulation de la parole soit différente et afin qu'il n'y ait personne de sacré, car dans le catholicisme, pour de vrai, dans la tradition chrétienne, il n'y a personne qui soit sacré, puisque la référence, elle est à l'unique Christ. Personne n'est sacré, tout le monde est au service du Christ dans la communauté, à des places qui ne sont pas les mêmes chacun, mais tout le monde. Donc cette situation d'avoir sacralisé une position et une personne à travers cette position peut profondément être modifiée. Il n'y a aucune raison théologiquement de rester dans ce type de schéma.
Sauf qu'on est face à une structure qui est extrêmement hiérarchisée. Alors, modifier tout ça, quand même, Vincent Némon, c'est un sacré
travail. Et puis, elle a 9 siècles.
Je voudrais quand même plaider, quand même, aujourd'hui, en faveur des prêtres. C'est-à-dire qu'attention, ne réduisons pas les prêtres d'aujourd'hui à des cléricalistes forcenés. Regardons les revenons à notre sujet, et quand on regarde les faits de pédophilie qu'on rencontre, beaucoup sont anciens et beaucoup sont le fait de prêtres qui effectivement étaient sans doute abusés de leur pouvoir. On voit d'ailleurs souvent qu'ils étaient en rupture avec l'Église du moment dans les années 70, dans les années 80, et qu'ils ils incarnaient une forme de tradition qui plaisait à certains. Donc il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien remettre à sa place, et je veux dire qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez, permettez-moi de le dire dans cette émission, l'immense majorité des prêtres ne sont pas dans un système cléricaliste, et que il faut faut quand même faire attention à ce qu'on dit. J'en fréquente beaucoup qui sont, je peux vous le dire, très blessés dans leur ministère, dans leur personne même, parce que ils ont l'impression que ils sont tous dans le même sac, qu'ils sont tous dans les abus de pouvoir, qu'ils sont tous. Or, je pense, comme le disait la sœur Véronique, ils sont, pour la majorité d'entre eux, l'immense majorité, sont tous au service. Et je crois qu'il faut,
Vincent, c'est très important. À partir du moment où on est dans des lieux de pouvoir, mais on parle de l'Église catholique, mais ça pourrait être, par exemple, le milieu politique, ou médiatique, d'ailleurs. Il peut forcément y avoir des abus. Donc,
mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. On est bien d'accord. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même une majorité de lieux et de personnes pour lesquelles ça ne se passe pas. Et le cléricalisme, attention, il est aussi, le pape le dit, hein, dans sa lettre, il est aussi le fait des laïcs. Et donc, dans cette église que l'on vit aujourd'hui, ou comme depuis...
des laïcs qui sont peut-être élevés, disons, entre guillemets, dans l'idée qu'il faut absolument respecter
à tout prix. Ça,
mais il faut libérer les prêtres du cléricalisme. Voilà. Donc, c'est la première chose à faire. Ce sont eux qu'il faut libérer.
Oui, absolument. Mais je crois qu'il faut les libérer. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux laïcs à retrouver une juste place du prêtre et du laïc. Et que c'est un combat, ça date de Lumen Gentium 10. Hein.
Il faudrait peut-être aller retravailler sur Lumen Gentium 10. Oui. Hein. Voilà.
Oui. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose du regard qu'on porte sur le prêtre. Et dans beaucoup d'endroits où on voit encore des abus, nous sommes dans des endroits où ecclésialement, on peut se poser la question de l'ecclésialité de la communauté. Est-ce qu'elle est vraiment intégrée? Est-ce qu'elle est vraiment diverse? Est-ce qu'elle est vraiment ouverte? Il y a quand même une corrélation, je veux pas être trop scientifique parce que ce serait dangereux, une corrélation entre la personnalité des auteurs d'abus et l'endroit où ça se passe si vous voulez, la culture quoi ambiante. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire là, à étudier pour l'immense majorité des prêtres qui sont presque, je dirais, banals mais qui le prennent bien dans ma bouche, il n'y a pas de souci d'abus.
Le journal La Croix de ce jour fait sa une justement sur la question du cléricalisme en faisant une dizaine de propositions. Et parmi celles-ci, je reviens à la question de la place des femmes dans l'Église, Véronique Margron. Il y en a deux, associer plus de femmes à la formation des prêtres pour les familiariser à ce que c'est qu'être une femme, à la réalité féminine, et placer des femmes à des fonctions d'autorité. Est-ce que vous êtes d'accord peut-être déjà avec ces deux propositions? Et notamment placer des femmes à des fonctions d'autorité, ça pourrait être quelles fonctions d'autorité?
Mais à vrai dire, vous savez, je pense que ce pourrait être beaucoup de fonctions d'autorité. C'est-à-dire que la question, c'est... Enfin, si on prend la question à l'envers, ce serait qu'est-ce qui réellement doit être réservé à des personnes qui ont été ordonnées au ministère de prêtres? Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui doit être, quelles doivent être les responsabilités spécifiques de ces personnes-là? Et sans doute qu'on se rendrait compte que beaucoup, beaucoup de responsabilités, y compris dans les diocèses, de responsabilités, mais on voit aujourd'hui beaucoup de femmes dans ces responsabilités, heureusement, grand Dieu, hein, de responsabilités diocésaines, donc pour le diocèse, sur toutes les aumôneries, sur la pastorale de la santé, sur la formation.
Oui, mais ce sont des responsabilités, mais qui vont pas forcément de pair avec une forme d'autorité, c'est-à-dire une autorité.
Parce que c'est comme dans une entreprise ou ailleurs, si vous êtes responsable de je sais pas moi 150 bénévoles et 25 salariés dans tel ou tel secteur de l'église, la formation, les aumôneries, vous êtes vraiment responsable, ou alors ça va pas. Donc ce qu'il faudrait vraiment voir, c'est en fin de compte toutes les charges aujourd'hui qui sont occupées par des, je parle pas du tout de évidemment du caractère cultuel, hein, mais qui sont occupées par des prêtres, est-ce que vraiment c'est nécessairement un prêtre, parce que c'est un prêtre ordonné, qui doit être à cette responsabilité. Et je pense qu'on se rendrait compte que, enfin, qu'on se rend déjà compte, mais que beaucoup d'entre elles pourraient tout à fait être occupées par des laïcs, que ces laïcs soient des hommes ou des femmes, peu importe, mais en tout cas par des laïcs. Et ce qui déjà faciliterait ce va-et-vient, faciliterait cette altérité, hein, c'est cette diversité nécessaire, en sachant bien aussi que, on le disait, le cléricalisme peut évidemment guetter les laïcs. Moi, je suis malheureusement le témoin, comme présidente des religieux et religieuses de France, qu'il peut même guetter les femmes, y compris les femmes religieuses, des supérieurs de communauté. Donc il faut aussi faire attention, bien sûr qu'historiquement il est lié au clair, c'est très clair, mais le fonctionnement autoritaire sur une communauté qui fait que la communauté n'a plus de place, n'a pas de parole, n'a pas d'identité, en quelque sorte n'a pas d'épaisseur, malheureusement ça n'est pas l'apanage des seuls clercs.
Christine Pedotti.
Dans l'Église aujourd'hui, il y a trois grandes fonctions. On sanctifie, c'est-à-dire on célèbre, on fait du culte, etc. On gouverne, on prend des décisions et on enseigne. Voilà. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que les femmes, qu'est-ce que les femmes peuvent faire là-dedans? Moi, je pense que les femmes peuvent enseigner. C'est-à-dire, des femmes savantes, enfin, quand je dis savantes au bon sens du terme, je veux dire, il n'en manque pas, j'en ai une en face de moi. Donc,
merci. Donc, il y a des femmes qui forment des prêtres aujourd'hui.
Mais oui, surtout, il y a des femmes. Moi, j'ai enseigné 20 ans dans un séminaire, donc ça, heureusement que.
Il y a des femmes. Moi, je pense qu'il y a des trésors d'intelligence chez les femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, les femmes ne prêchent pas. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas cette parole d'enseignement, d'autorité. Et ça, c'est une vraie question. Parce que, en termes d'image, c'est important. Gouverner, prendre des décisions. Je veux dire, il n'y a pas de femmes qui prennent des décisions à haut niveau dans l'Église, parce qu'on considère que pour prendre des décisions, il faut être un prêtre. Moi, j'ai un vrai problème avec ça. Je ne comprends pas. Et je ne pense pas que les laïcs ou les femmes doivent seulement s'occuper du chauffage et des clés de l'Église.
Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait que les femmes puissent devenir prêtres ?
Moi, j'ai une opinion sur cette question.
Qui est ?
Qui est que, aujourd'hui, je ne vois pas de raison théologiquement tenable sur le fait qu'on n'ordonne pas des femmes. Mais je pose d'abord la question sur ce que font les prêtres. Parce qu'à mon avis, il faut d'abord poser la question sur quel est le job des prêtres avant de, éventuellement, ordonner des femmes. Donc, la priorité, c'est pas d'ordonner des femmes. C'est de savoir ce que c'est que le job des prêtres et des évêques. Puis vous savez, moi, j'ai un truc qui vient toujours. Il faut faire des femmes cardinales. Symboliquement, il faut envoyer des femmes en rouge autour du pape.
Bon, poser la question de l'ordination des femmes, poser la question aussi du célibat des prêtres, c'est des questions évidemment qu'on doit vous poser très régulièrement, Vincent Némon. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont il n'est absolument pas question, ou bien est-ce qu'il y a quand même l'idée d'en débattre un petit peu, d'y réfléchir ?
Non,
d'y réfléchir, j'imagine que oui.
Je pense que pour moi, la question, c'est la question. Faut pas raisonner en termes de pouvoir. C'est-à-dire que je crois que les clercs aujourd'hui, et on les voit, et je pense que notre discussion est un peu cléricaliste, excusez-moi. On les voit comme détenteurs de pouvoir, et on dit il n'y a pas de raison que les femmes n'aient pas le même pouvoir, donc faudrait les ordonner, avoir des cardinales, etc. Je crois que c'est pas tout à fait la question.
J'ai pas dit qu'il fallait les ordonner pour en faire des cardinales.
Vous voulez des cardinales. Je précise quand même qu'il
donc
y a des...
On supprime la fonction de cardinal comme ça.
Ça c'est la solution du temps, c'est-à-dire que pour que tout le monde soit égal, on supprime les qualités. Ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose de... Il y a des femmes, d'abord je voudrais juste le rectifier, il y a des femmes dans l'Église qui ont des vraies responsabilités, la sœur le disait, dans les diocèses, qui ne sont pas là uniquement, comme vous le dites, pour avoir les clés de l'Église, même s'il n'y a pas de tâches non nobles, mais qui sont des économes diocésains, par exemple. Des femmes qui ont... Alors c'est pas des tâches pastorales, mais c'est des tâches de gouvernance, auprès de l'évêque, certes, mais qui sont voilà, il y en a de plus en plus. Donc là, je crois qu'on part pas zéro. On peut toujours mieux faire, et la place de la femme dans l'Église reste une place qu'on questionne. Le pape François a lancé une commission pour réfléchir à frais nouveau sur la place de la femme. Alors, on a été un peu vite dans certains médias en disant qu'on allait avoir des diaconesses bientôt. C'est pas forcément le cas, mais je pense que la question reste ouverte de la place de la femme dans l'Église. Aujourd'hui, j'ai pas entendu dire qu'on allait ordonner des femmes.
Sur la question des abus sexuels, qu'est-ce qui est mis en place, Vincent Némon, aujourd'hui, dans la formation des jeunes prêtres? Est-ce que c'est un thème qui est abordé?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais dans les trois ou quatre grands volets, les trois volets de travail qui est fait dans la lutte contre la pédophilie, il y a tout un volet de formation, de sensibilisation et d'information. Et donc, notamment dans les séminaires, il y a aujourd'hui plus d'intervention qu'il y avait avant, parce qu'il ne faut pas non plus dire qu'on part de zéro, mais on pouvait bien mieux faire, et on le fait. Et donc il y a de plus en plus d'interventions qui sont organisées, souvent d'ailleurs depuis la conférence des évêques de France, pour sensibiliser les séminaristes aux questions, globalement aux questions de sexualité, et plus particulièrement aux questions d'abus sexuels.
Et est-ce que ce sont des questions, vous, qui vous a été justement, enfin, que vous avez abordé, que vous avez eu l'occasion d'aborder dans les formations que vous avez dispensées,
Véronique Parent? Pendant de nombreuses années, puisque j'enseignais les questions d'éthique liées à la sexualité. Donc, c'est au cœur du sujet. Mais la question après, c'est comment on relie? Autrement dit, on sait bien que dans l'Église, particulièrement, les abus sexuels sont toujours liés à des abus de pouvoir ou à des abus de conscience, comme le dit le pape, toujours à des abus de confiance aussi. Donc, c'est très important de parler de la vie affective, c'est très important de parler de la sexualité, c'est très important de parler du crime que représente l'abus sexuel. Mais s'il n'y a pas de lien avec la façon de vivre, pas forcément des prêtres, de tout le monde, hein, mais entre autres des prêtres, en l'occurrence pour des futurs prêtres, s'il n'y a pas de lien avec cela, c'est important de le faire, mais ça ne sera jamais suffisant. Donc le problème, c'est aussi comment on peut travailler avec d'autres, c'est aussi comment on accompagne les personnes donc les jeunes prêtres, sur le long cours et pas seulement pendant une année, deux années, trois années de séminaire où on aborde ces questions. C'est tout cela qui est en jeu. Sinon, ce qu'on fera est pas si mal, mais malheureusement, comme dit quelqu'un qui a démissionné récemment de toute autre chose, qui est le ministère de l'écologie, les petits pas aujourd'hui, ça ne peut plus suffire face à l'ampleur de la tragédie que nous vivons.
Merci beaucoup, Véronique Margron, Christine Pedotti et Vincent Némon d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez réécouter sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pourrez également télécharger l'émission d'ici quelques minutes. Vous pouvez par ailleurs nous écrire et puis nous retrouver en vidéo avec des extraits de l'émission. Ça, c'est plutôt à partir de demain matin. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Ledoux, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Et émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Julien Calvas. Demain, Arnaud Laporte.
Demain ? Non, moi, c'est dans quelques minutes.
Ah c'est, oui, c'est vrai.
La dispute, vous savez, l'émission qui suit le Grain à Moudre.
Donc la dispute, ce sera
littérature.
Littérature.
Ce soir et demain, dans le Grain à Moudre.
Le grand retour du club. Alors, c'est pas encore au Bel Air demain.
Non.
Ni pour la dispute, ni pour nous. Il faudra attendre le vendredi suivant. Mais c'est bien le retour du club. Est-ce que c'est la fin de l'état de grâce pour Emmanuel Macron ? On est toujours un petit peu dans le vocabulaire religieux.